Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Et oui, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo. Vous êtes dans le Mac de l'Immo, vous le savez, c'est votre émission hebdomadaire qui parle immobilier. On vous dit tout sur l'immobilier, sur les actualités, sur les tendances. On est ravis d'être avec vous chaque vendredi de... quelle heure déjà? De 8h à 9h30, voilà. Je suis pas réveillée.
Vous allez y arriver, vous allez
ouais,
y arriver.
Ouais, je vais y arriver. Bonjour Erwan Lemercier, comment allez-vous?
Bonjour Bélénice, comment allez-vous?
Eh bien écoutez, il fait beau, enfin il fait beau.
Il fait chaud.
Il fait chaud. Il fait plus chaud que d'habitude, voilà. Il fait 20 degrés en ces jours-ci. Aujourd'hui, pareil, hein, 21 degrés prévus à Paris en tout cas et dans beaucoup de villes. Donc oui, ça va. Et vous?
Eh bien écoutez, il fait beau, il fait chaud aussi. Un week-end qui s'annonce assez sympathique depuis plusieurs semaines puisque ça change un petit peu de temps.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça fait plaisir. En tout cas, on est ravis de vous accompagner pour cette fin de semaine. Vous le savez, alors avec Erwan, on va vous dire toutes les nouveautés, toutes les actualités du secteur pendant 45 minutes. Et puis à 8h45, Sabrina Robles-Lebailly sera mon invitée, directrice générale de Adaptimo. Adaptimo, c'est un logiciel, entre autres, hein, c'est des solutions proposées aux professionnels de l'immobilier. Et Sabrina Robles-Lebailly a un parcours incroyable, inspirant. Donc je suis vraiment ravie de la recevoir parce que vraiment elle mérite d'être connue. Et d'ailleurs elle a un Instagram parce qu'elle fait beaucoup de développement personnel. Elle aide notamment les femmes entrepreneuses, et elle a un compte Instagram, donc allez-y, elle fait des vidéos très sympathiques. On en parlera tout à l'heure à 8h45. Pour cette première heure, Erwan, plein de sujets, hein. On va parler des étudiants qui ont du mal à trouver un logement,
toujours et encore.
Et oui, hélas. On va parler aussi des taux des crédits immobiliers. Vous savez qu'il y a eu l'annonce de la BCE hier, hein. On va parler des espaces de nature en ville qui sauvent des vies. Et oui, on vous en parlera en détail dans quelques instants. Et puis on découvrira évidemment, comme chaque vendredi, une start-up IMO, puisque c'est notre petit rituel sur Radio IMO. Bon, on peut dire qu'on est bon. Oui, on est bon. C'est parti pour le Mac de l'IMO.
Le Mac de l'IMO sur Radio IMO.
Et encore un rituel, Erwan, on commence avec votre revue de presse, qui est toujours très agréable à écouter pour se mettre en jambes.
Merci.
Et justement, alors au menu, hein, cette semaine, eh bien on le disait il y a quelques instants, hein, des étudiants franciliens à la rue, même si on pense à vous, hein, qu'il y en a aussi dans d'autres villes, mais en tout cas, en Ile-de-France, c'est très compliqué. Découvrir où acheter pour vivre à côté de la mer, ça me donne très envie. Et enfin, l'énorme flop des JO du côté de l'immobilier de prestige, de luxe. Alors on commence avec ce sujet récurrent, hein, depuis plusieurs semaines, la difficulté des étudiants est plus particulièrement des étudiants parisiens à trouver un logement. C'est un phénomène, hein, qui se ressent de plus en plus, à tel point que la ville de Paris s'inquiète du manque de logement.
Des dizaines de milliers d'étudiants qui risquent de ne pas avoir de logement à la rentrée 2024. En effet, hein, l'offre s'amenuise de plus en plus et la demande augmente sur le locatif. Cependant, situation assez cocasse, hein, puisque plusieurs élus de la ville de Paris viennent de pointer du doigt le nombre de logements inoccupés qui, lui, ne cesse d'augmenter. La situation à Paris, hein, devient très préoccupante, voire même critique, en raison de l'augmentation des logements inoccupés, utilisés comme résidence secondaire ou laissés vacants, ce qui représente à peu près 20% du parc immobilier. Et selon l'agence parisienne d'urbanisme, la Pure, plus de 262 000 logements étaient inoccupés en 2020, un nombre qui pourrait atteindre les 290 000 en 2024. Et puis la majorité de ces logements inoccupés, eh bien, ce sont des petites surfaces qui, comme par hasard, seraient idéales pour loger tous ces étudiants. En 2022-2023, hein, 392 230 étudiants étaient inscrits à l'Académie de Paris, soit 36% de plus qu'en 2001-2002. Et malheureusement, la plupart d'entre eux sont forcés de se loger dans le parc privé, ce qui n'aide absolument pas à la crise du logement. Et pour remédier à cette situation, les élus ont proposé un amendement au projet de loi finances pour augmenter la fiscalité sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui, selon eux, pourrait libérer rapidement 100 000 logements, chiffre qui resterait quand même plus qu'insuffisant.
Allez, on parle tout de suite de la mise au vert ou au bleu. C'est vrai qu'il y a eu, l'avant confinement et puis l'après confinement, le phénomène Covid. Hein, les Français ont eu envie de se mettre au vert, de respirer à plein poumon l'air de la campagne, mais aussi de la mer. Erwan, un but qui n'est pas que pour les gens fortunés, puisqu'en cherchant bien, ce rêve peut devenir une réalité pour beaucoup d'entre nous.
Ah, tout à fait, Bérénice. Hein, vous en parliez tout à l'heure. Vous, ça vous intéresse? Eh bien, pas seulement vous, puisque l'immobilier, hein, notamment sur le littoral français, fait figure de proue et c'est bien le seul à maintenir son cap et sa vitesse de croisière. Un ressenti qui est confirmé par Loïc Quentin, le président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, puisqu'à la fin de mars 2024, le prix moyen des 479 stations balnéaires de l'Hexagone avait atteint 4680 euros par mètre carré, une progression de 0,5% sur un an et de 31,7% sur 5 ans. Des chiffres qui s'expliquent notamment en raison des acquéreurs, puisque ce sont des retraités en grande partie qui achètent donc comptant et qui ne sont pas ou moins inquiétés par la fluctuation des taux d'intérêt, c'est QFD. Et puis c'est déjà un gage de qualité, hein, puisque sur les 100 premières villes de France où il fait bon vivre, plus d'un tiers sont des villes situées en bord de mer, parmi elles Biarritz, Bayonne, Lorient, Brest, des villes qui sont dynamiques en tout point de vue, avec une économie, une démographie et une qualité de vie. L'autre point commun de ces résidences, eh bien, c'est le prix immobilier relativement abordable, hein, inférieur ou égal à 5000 euros le mètre carré, un montant qui constitue pour une majorité de Français un plafond de verre. Et puis pour avoir de meilleures conditions d'accès, elles sont également dans la majorité adaptées aux télétravailleurs, hein, ceux qui doivent se rendre à Paris régulièrement, notamment grâce à la présence d'une gare TGV. Mais dans toutes ces belles régions, il ne faut pas oublier l'une des plus belles, la Bretagne. Et puis pour faire plaisir à Bérénice également, la Normandie, où les prix sont plus bas et où le temps est aussi plus doux. Et contrairement aux idées reçues, ce serait faux de dire qu'il pleut en Bretagne. Et puis si vous êtes investisseur, là aussi, hein, ça vaut le détour, mais cette fois-ci pour des raisons totalement différentes. Au programme, rentabilité du bien, possibilité de plus-value à la revente. Interrogé par nos confrères des Échos, Pierre-Emmanuel Jus, hein, le directeur de Maslow, une plateforme d'investissement locatif axée à la fois sur l'ancien et le neuf, déclare que pour un logement ancien rénové ou neuf, la rentabilité brute moyenne que l'on peut attendre se situe aux alentours de 3%, un peu plus en meublé. Et puis on peut toutefois espérer une rentabilité finale, hein, bien supérieure grâce à la revalorisation probable de l'immobilier à moyen long terme. Attention à ne pas acheter en première ligne non plus, puisque les loyers sont plus chers et donc les loyers sont moindres.
Allez, on continue cette revue de presse. Dernier sujet, et on parle d'une terrible désillusion. Alors, on parle pas de celle de Roland Garros, hein, c'est ça, Erwan?
C'est un peu délicat pour les Français, je pense.
Oui, voilà, c'est ça. Mais là, on parle de la location saisonnière, hein, Airbnb, pendant les Jeux Olympiques. Vous le savez, on en parle beaucoup dans la presse. Eh bien, tout n'est pas complet. Erwan.
Bah oui, si tous les propriétaires, hein, et même certains locataires parisiens se voyaient déjà plus riches que Crésus, ou pour les locataires ne pas payer de loyer et même avoir un beau surplus, eh bien c'est la douche froide, hein, voire même pire que ça. Plus la date de l'événement approche, plus les prix des locations courtes reculent. Selon une étude réalisée par le cabinet Aïrna pour BFM Immo, le tarif moyen est passé de 619 euros la nuit en janvier à 627 euros en février, pour descendre à 508 euros en avril, soit un peu moins de 150 euros. Et puis en banlieue, les prix qui oscillaient autour de 302 euros en janvier, 333 en février, sont passés finalement sous la barre des 300 euros en avril.
Oui, mais alors comment on réagit justement l'immobilier de luxe, hein, puisque la clientèle, il faut le dire, elle doit avoir les moyens normalement.
Eh bien, elle a les moyens, mais pas forcément l'envie. Hein. Là aussi, selon Richard Tsipin, le directeur général de Barnes, qui a été interrogé par nos confrères d'Europe 1, c'est plus de 200 mandats avec seulement 10% loués. Alors oui, hein, y a des locations qui existent à prix d'or, 200 000 euros les 15 jours, ça se fait. Mais cependant, le secteur reste plus que déçu et n'hésite pas à monter au filet, hein, pour faire un petit clin d'œil à Roland Garros, pour dénoncer le manque d'engouement autour des JO. Rappelez-vous, hein, pendant la Coupe du Monde de football en 98 ou même de rugby, Paris vivait, et là, à seulement un mois et demi des Jeux Olympiques, eh bien, on n'a pas vraiment l'impression que Paris vit aux couleurs de l'événement. Il n'y a pas vraiment d'euphorie, d'enthousiasme, de bonheur de revoir cet événement dans notre belle capitale, mais plutôt des bruits de grues et de chantiers. Là aussi, hein, toujours selon Richard Tsipin, il reste de l'espoir, puisqu'à Londres, en 2012, le marché de la location a repris du poil de la bête 50 jours avant les JO. Donc si vous espérez louer à prix d'or, revoyez peut-être un peu votre prévision à la baisse, mais n'abandonnez pas et faites de votre mieux pour avoir la plus belle annonce et les plus belles photos possibles. Alors bon courage.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Imo, et je vous l'ai dit tout à l'heure, Radio Imo, voilà, on est présent sur, on essaye en tout cas d'être présent sur tous les événements liés à l'immobilier, et c'était le cas pour la semaine dernière pour les rendez-vous des professionnels de la location saisonnière. Nous étions présents sur cet événement au Doc de Paris, et justement nous allons écouter l'interview de la fondatrice, de l'organisatrice du salon, fondatrice de J'affiche Complet, qui s'appelle Élise Ripoche, qui est intervenue sur le plateau de Jean-Baptiste Vénin, notre journaliste. Et justement, elle a donné des conseils pour la location saisonnière. On écoute.
Élise, j'ai vu ça en allant faire un tour sur votre site internet à destination des hôteliers, gîtes, conciergeries, investisseurs immobiliers qui cherchent justement à lancer une dynamique de revenu management dans leur activité et donc à améliorer aussi l'existante. Vous proposez depuis votre site internet un guide pour éviter justement les 6 grosses erreurs les plus fréquentes. Est-ce que rapidement, comme ça, on peut citer les principales erreurs dans lesquelles on peut tomber justement ?
Alors, il y a des erreurs qu'on observe souvent. C'est par exemple avoir peur des durées de séjour minimum. Les plateformes vont proposer d'exiger une durée de séjour minimum et on peut se dire, bah moi, je veux pas avoir que une nuit, je veux pas non plus exiger des durées de séjour trop longues, j'ai un peu peur, donc je vais exiger 2 nuits minimum comme ça, de façon annuelle. La meilleure optimisation, c'est pas de faire ça. La meilleure optimisation, c'est de se dire que sur les périodes de faible demande, on met que une nuit, et sur les périodes de forte demande, peut-être qu'on va exiger 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits, 6 nuits, 7 nuits minimum. Ça, c'est une erreur qui est très fréquente. Une autre erreur qui est très fréquente, c'est de mettre une réduction automatique en dernière minute. Une réduction automatique en dernière minute, c'est très incité par les plateformes, c'est très incité par les outils aussi. La seule chose, c'est que si on est en période de forte demande, faut surtout pas le faire, faut maintenir, parce que même en dernière minute, la ville va être saturée et donc on va finir par louer. Donc il faut tenir, c'est comme à la bourse, faut avoir la tête froide. Ou en période de faible demande, si on a besoin de mettre une promotion en dernière minute, c'est très probablement que notre prix initialement n'était pas bien positionné. Et auquel cas, il vaut mieux avoir dès le début un prix bien positionné plutôt que prendre pour habitude de casser les prix comme ça en dernière minute.
Si j'ai envie de me projeter comme ça, tiens, je suis en location meublée non professionnelle, en saison, du côté de La Baule, en Loire-Atlantique. Je n'ai que très peu de locations et pourtant, j'ai baissé mes prix. Bah, quel type de conseils, là, vous allez me donner ?
Eh ben, typiquement, on va aller regarder ensemble les durées de séjour minimum. Est-ce qu'on n'est pas trop exigeant sur les durées de séjour minimum ? On va aller regarder ensemble la position des annonces aussi dans les résultats de recherche. Des sociétés comme Booking.com nous donnent beaucoup d'outils pour pouvoir améliorer notre position avec des programmes comme Genius, Préféré, Accélérateur de visibilité. Donc tout ça, c'est des outils qui vont nous aider. Et puis on va évidemment regarder quand même le positionnement tarifaire et potentiellement faire des promotions qui peuvent être parfois très précises et c'est très utile. Des plateformes, bon, c'est aussi un exemple Booking.com, mais des plateformes comme Booking.com nous proposent aussi d'avoir des promotions géolocalisées. Donc se dire, tiens, bah, en ce moment, la clientèle américaine, alors c'est pas l'exemple que vous m'avez donné, mais la clientèle américaine à Paris est très présente, donc je vais faire telle ou telle promotion, etc.
Ok, alors vous citiez à l'instant Booking.com, il faut savoir qu'ils sont présents sur ce salon, on les a reçus d'ailleurs tout à l'heure, on a reçu la directrice générale. Il y a un an, vous lanciez donc la première édition du rendez-vous national de la location saisonnière. C'était son nom à l'époque, ça a changé de nom cette année et on parle des pros. C'était important de mettre cette dimension professionnelle dans l'appellation du salon.
Oui, c'était très important parce qu'on souffre d'une mauvaise image, hein, soyons très clairs. En location saisonnière, on souffre d'une image vraiment mauvaise parce qu'on est souvent assimilé à des particuliers. C'est d'ailleurs ce que je disais dans ma prise de parole d'ouverture de l'événement. On nous appelle encore des particuliers dans un certain nombre de situations. Et ça, c'est absolument dramatique pour la pérennité de la profession. Il faut aujourd'hui qu'on fasse la preuve par des événements comme celui-ci et beaucoup d'actions qui sont menées notamment par le SPLM, des syndicats qui soutiennent notre métier, il faut qu'on arrive à montrer qu'on est une profession, qu'on génère de l'activité économique intéressante pour notre pays et qu'on est très loin d'être des propriétaires qui veulent simplement s'en mettre plein les poches et qui n'ont pas d'intérêt pour l'économie française.
Arrêtons les clichés. Voilà. Et d'ailleurs, l'année dernière, si je ne me trompe pas, le salon avait lieu un samedi. Là, en l'occurrence, on est sur un vendredi, un jour de semaine, un jour travaillé. C'est, là aussi, il y a un signal.
Oui, exactement. Il y avait un souhait aussi de correspondre, de proposer l'événement sur deux types de périodes. Et je pense qu'on va retenir le vendredi parce que ça a eu beaucoup de succès.
Donc là, vous vous adressez uniquement aux professionnels sur ce salon ?
Oui, on s'adresse aux professionnels de la location saisonnière. Tous les profils qui prennent le sujet de la location saisonnière comme une activité professionnelle sérieuse dans leur activité. On a tendance à oublier aussi qu'un investisseur immobilier, il y a beaucoup, et à l'événement également, beaucoup d'investisseurs immobiliers qui vivent de l'immobilier. C'est leur activité professionnelle principale. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça les professionnels de la location saisonnière.
Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais on parle parfois d'impact sur le marché de l'immobilier, concurrence déloyale, évasion fiscale, problèmes de voisinage, nuisances sonores. C'est vrai que la location saisonnière n'a pas forcément toujours bonne presse, notamment auprès de certains élus ou organisations professionnelles. C'est une réalité ou on est, ou c'est du n'importe quoi, là?
Du n'importe quoi, ce serait... pas sympa, mais, mais c'est vrai qu'on n'a pas bonne presse du tout. On n'a pas bonne presse du tout, et je pense, par mes connaissances, finalement, et c'est là où on a un rôle, nous, en tant que professionnels, de faire savoir, de partager, de montrer, de se réunir comme ça, pour qu'on voit qu'on est nombreux. Oui, on a un rôle de pédagogie.
On peut parler des différents événements qui sont prévus dans le cadre de ce salon, où vous avez prévu de nombreuses conférences.
Oui, on a une vingtaine de conférences sur tous les aspects de l'activité en location courte durée. On a des enjeux liés à l'automatisation, on a des enjeux aussi liés, typiquement on a une table ronde avec le SPLM, ADN Tourisme et l'UNPLV qui vont partager les enjeux réglementaires et comment ils défendent la profession. On a des sujets liés au direct, par exemple, la vente en direct, donc comment avoir l'autonomie de gérer son activité, des sujets liés au revenu management, maximisation du chiffre d'affaires, etc. etc.
C'est combien d'exposants sur le salon ?
70 exposants.
D'accord, ok. Donc un chiffre toujours en augmentation. Donc ça aussi, c'est bien parce que ça prouve qu'il y a une véritable attente, quoi.
Oui, complètement. On est passé de 47 exposants l'année dernière à 70 cette année.
Sans faire une liste à la Prévert comme ça, est-ce qu'on peut en citer quelques-uns dans certains domaines en particulier ?
Oui, alors en termes de plateforme, on a Booking.com, Abritel, PAP Vacances, par exemple, si on devait en citer que trois. On a aussi les logiciels, Channel Manager par exemple, comme Guesty qui est le leader mondial, ou Smiley. On a aussi des personnes qui font de la formation sur Internet. On a des solutions pour la comptabilité, on a des solutions pour les travaux. Donc c'est extrêmement varié sur l'ensemble des aspects. On a aussi même des solutions de ménage comme Vapodil par exemple.
J'ai vu qu'il y avait une personne aussi qui s'occupait des punaises de lit aussi.
Oui, on a la société HIT pour les punaises de lit et punaises experts aussi également.
Voilà, c'est vraiment très ouvert, quoi.
C'est ça, c'est très ouvert, mais c'est toujours lié au point évidemment, de douleur en fait, de la location saisonnière. Parce que c'est vrai que les punaises de lit, on pourrait se dire, bon, c'est un peu opérationnel terrain. Le Vapodil avec le ménage, on pourrait se dire, oh, bah, c'est un peu opérationnel terrain. En fait, le ménage est un point de douleur immense dans le domaine de la location saisonnière et c'est important d'apporter des solutions. Les punaises de lit ne sont pas un problème tant qu'elles sont pas là. En revanche, dès que malheureusement elles arrivent dans un bien, c'est un préjudice financier qui est vraiment énorme. Et une grosse logistique pour gérer ces problématiques-là. Donc on a aussi besoin d'être épaulé par des pros sur ces sujets-là.
Élise, concrètement, c'est quoi l'intérêt pour un exposant aujourd'hui, justement d'être présent sur ce type de salon ?
L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir échanger avec l'ensemble des segments de la location saisonnière en France. Donc toutes les populations qu'on a évoquées tout à l'heure, conciergerie, agence immo, sous-loueur professionnel, investisseur immobilier et gîte et maison d'hôte, pouvoir échanger d'un coup avec tous ces acteurs-là et se faire connaître se faire connaître auprès d'eux.
Complètement. Alors au programme également de cette journée, il y a le Grand Prix de la location saisonnière avec la remise de 4 trophées. Avant de parler de chacun de ces trophées, c'est quoi l'objectif du Grand Prix ?
L'objectif du Grand Prix, c'est de montrer qu'on est un secteur d'activité qui est dynamique et innovant. C'est aussi de mettre en lumière les marques qui prennent la peine justement d'être dans cette démarche-là. C'est aussi important, et c'est le dernier argument à ce propos, c'est aussi important pour nos visiteurs de pouvoir voir quelles sont les marques qui ont eu, et saluées par le jury, qui ont eu un acte important dans l'année qui vient de s'écouler sur les aspects des trophées, donc sur le côté responsable, sur le côté innovant, sur les jeunes pousses prometteuses, etc. Pour le visiteur, c'est aussi une grille de lecture de pouvoir se dire, tiens, je vais peut-être soutenir, j'ai des convictions responsables par exemple, peut-être je vais soutenir une société comme celle-ci, je vais aller la voir à l'événement.
Donc les 4 trophées, les catégories,
donc innovation, responsable pour la partie écologie et soutien du tissu économique local.
D'accord.
On a aussi jeunes pousses et on a aussi le trophée du service client qui était un trophée qui a impliqué le public en fait pour voter sur le meilleur service client.
Ok, donc il y a un jury dont vous faites partie. Qui sont les autres membres du jury ?
Alors les autres membres du jury, c'est Marc Ezraï qui est journaliste et en charge de l'édition Les Essentiels chez Studirama. On a aussi Valérie de l'entité location saisonnière à la FNAIM, Marie Pistinier du SPLM. Et Vanessa Erdoff, directrice France de Booking.com.
Voilà, qui était notre invitée tout à l'heure. Voilà. Rapidement, les critères de sélection pour attribuer ces fameux trophées.
Alors c'est un concours, donc en fait chaque société a envoyé son dossier de candidature en faisant état de l'ensemble des éléments qui, à son sens, illustraient leur légitimité à gagner le prix. Donc on a évalué en fait selon les réponses finalement sur chacun des aspects. Donc par exemple, pour l'innovation, il fallait avoir mis en place quelque chose d'innovant sur l'année qui vient de s'écouler, typiquement. Pour Jeune Pousse, il fallait que la société soit lancée sur l'année qui vient de s'écouler, par exemple.
Mmh. Et ben, on ira écouter évidemment la remise de prix tout à l'heure. 1360 personnes, ça c'est le nombre de personnes qui avaient participé l'an passé à la première édition. Là, vous tablez sur combien? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde.
On est à 1550, je crois, même un peu plus en fait à ce matin. J'ai pas regardé ce matin précisément, mais on doit être entre 1550 et 1600 personnes.
T'encourages à continuer ça, non?
Oui.
Clairement. Une dernière question peut-être. Vous proposez également à destination aux loueurs de biens saisonniers d'accroître leur réseau en rejoignant un mastermind. J'ai vu ça. On peut en dire aussi deux, trois mots?
Oui, le mastermind, c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que cette année, en tant qu'entrepreneur, ça a été la première année pour moi de participer à un mastermind d'entrepreneur. Et ça a été un point vraiment clé dans le développement aussi de mon activité. Je voulais reconstruire, les masterminds d'entrepreneurs sont toujours des choses très chères. Et je voulais reconstruire cette expérience-là à plus petite échelle pour un prix très accessible. Et c'est ce qu'on a fait avec l'événement, avec du coup un dîner, la reconstitution d'un groupe privé, un dîner de mastermind donc qui permet d'échanger sur des sujets qui ont le pouvoir d'accélérer l'activité, qui a eu lieu hier soir et qui a vraiment satisfait les participants. Beaucoup ne partaient plus, restaient sur les tables lors des échanges, donc c'était très riche. Et puis on a à 14h une présentation très privée de Booking.com pour ses membres du Mastermind. Il y a beaucoup d'avantages liés à l'espace VIP, etc. Donc voilà.
Toute dernière question, Élise. Qu'est-ce qui vous éclate finalement dans votre activité tous les jours?
C'est une très bonne question. Quand c'est dur, parfois, on se demande.
Ouais.
En fait, je crois que ce qui m'amuse beaucoup, en tout cas ce qui m'anime même plus que amuser, c'est d'être pionnier sur des sujets. Avec J'affiche Complet, on a été pionnier. On est la première et la seule agence de revenu management spécialisée en location saisonnière. Donc pour moi, c'était vraiment très attirant de se dire qu'on allait faire la différence dans un domaine d'activité, apporter quelque chose qui n'existait pas encore. Et puis pour le rendez-vous de la LOC, le rendez-vous des professionnels de la location saisonnière, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existait pas et avec cette conviction forte que notre profession en avait besoin et que ça allait être innovant, c'est ça qui donne aussi le courage aussi de se battre pour organiser des choses comme ça.
Un grand merci Élise Ripoche d'être venue sur ce plateau.
Merci à vous.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
Vous êtes bien sur Radio Imo dans le Mac de l'Imo, on peut le dire, Bérénice, je pense sans prétention, votre matinale préférée sur l'immobilier, pour tout savoir de l'actu de l'immobilier et aussi savoir l'évolution notamment des taux de crédit immobilier, Bérénice.
Et oui, selon le courtier CAFPI, pour le cinquième mois consécutif, les taux poursuivent leur lente baisse. En effet, en mai, les taux négociés ont atteint 3,60 sur 10 ans, 3,66% sur 15 ans, 3,78 sur 20 ans. Et 3,93 sur 25 ans, soit des taux proches de ceux pratiqués en juillet 2023 quand les taux étaient en pleine hausse. Alors si les baisses restent marginales par rapport au mois dernier, elles s'inscrivent dans un mouvement plus large à prendre en considération. Après un premier trimestre timide en termes de production de crédit, avec seulement 21,9 milliards d'euros de crédit immobilier accordés d'après la Banque de France, les perspectives restent positives pour le reste de l'année grâce à la baisse des prix et à un retour des demandes.
Certains experts y voient d'ailleurs les prémices d'une reprise pour le marché de l'immobilier.
Et oui, alors certains le disent, bon, d'autres sont un peu plus pessimistes. En revanche, tous quasiment s'accordent pour dire que les actions de la part du gouvernement, qui a annoncé qu'il voulait aider le marché, relancer le marché, ces actions se font attendre. Un exemple, les critères d'octroi définis par le HCSF, vous savez, le Haut Conseil de Stabilité Financière, sont toujours à l'ordre du jour, malgré la tentative d'une proposition de loi du député Renaissance des Landes, Lionel Causse, qui est également président du Conseil national de l'habitat, qui voulait réformer cette institution. Bien voilà, c'est tombé à l'eau. Il a retiré sa proposition puisqu'elle avait été totalement changé selon lui. Et plus récemment, eh bien, c'est le député Damien Adam qui a proposé de mettre en place la portabilité des prêts immobiliers, hein, une mesure qui avait été proposée depuis quasiment un an par la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Alors, cette proposition, en fait, vise à assurer à ceux qui disposent déjà d'un crédit avec un taux de conserver ce taux et les conditions pour un nouvel achat. Donc, en gros, l'emprunteur garde le crédit. Si cette proposition ne va pas pour certains dans le sens des emprunteurs, hein, car sa généralisation, voilà, selon certains experts, pourrait conduire à les banques à augmenter leurs taux. Après, c'est des suppositions. Hein. On ne sait pas si ça sera le cas. En tout cas, voilà, cette proposition, ça reste quand même un signe qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante, hein, notamment chez les députés, du réel besoin de libérer le crédit pour permettre de relancer le marché immobilier.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Bienvenue sur Radio Immo, on est ravis de vous aider à vous réveiller ce matin ou voilà, si vous écoutez ce podcast, que vous êtes en voiture, je sais pas, dans la rue, on est ravis de vous accompagner. On va parler du dispositif MaPrimeRénov' et de ses évolutions. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu des rétropédalages, des avancées, puis après on a reculé d'un pas, mais voilà. En tout cas, on en parle à chaque fois sur Radio Immo et on va parler rénovation énergétique et donc de ces aides Erwan, du soutien financier aux travaux de rénovation énergétique.
Tout à fait. Si vous souhaitez rénover votre logement, déjà, il faut savoir que MaPrimeRénov', ce n'est pas le seul dispositif d'aide, hein, puisque bien au contraire, les régions, les départements, les communes, même les communautés de communes participent à leur bon vouloir et bien évidemment à leur échelle, à cet effort de rénovation, comme l'explique Baudouin de la Varante, le cofondateur d'ITAC, qui est un bureau d'études engagé dans la rénovation énergétique. À nos confrères du Figaro, les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs pensent que l'État ne les soutient pas dans leur rénovation énergétique et nous avons mené une étude pour leur montrer qu'ils peuvent obtenir jusqu'à 17 000 euros de leur métropole en plus de l'aide nationale MaPrimeRénov'. Alors pour vous aider, vous guider au mieux, voici la liste des 10 endroits où le coup de pouce est le plus généreux en se basant sur les classements d'ITAC. Pour les logements avec des revenus dits intermédiaires, Rouen arrive en première position avec 17 800 euros, la ville de Nice avec 17 000, Lyon avec 16 700 euros, Rennes avec 16 000 euros et enfin Nantes avec 15 250.
Et qu'en est-il alors pour les revenus supérieurs ?
Eh bien, les revenus supérieurs, et ben là encore, Rouen est premier avec 17 800 euros. Lyon, cette fois-ci, grimpe en deuxième position avec 17 600 euros, plus que pour les revenus intermédiaires. Rennes se maintient à la troisième position avec 16 000 euros. Nantes, 15 250. Et Nice qui dégringole à la cinquième place avec 13 700 euros. Mais où est Paris ? Eh bien, la réponse est très simple. Hein. Je vous ai dit plus tôt que la société classait les aides pour les logements individuels. Or, comme vous le savez, Paris compte plus de logements collectifs. L'objectif d'ITAC à travers ce double classement est simple: aider et faire connaître au plus grand nombre toutes les aides qui peuvent vous aider à rénover votre logement. Donc allez-y, n'hésitez pas autour de vous, communes, départements, régions, mairies, demandez à tout le monde si en fonction des travaux de rénovation que vous voulez faire, si une aide, une participation est disponible, mieux vaut plus que pas assez.
Ça c'est sûr.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Dans quelques instants, on va découvrir une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. Et puis à 8h45, Sabrina Robles-Lebailly, la directrice générale de Adaptimo, sera avec nous. On va découvrir son parcours inspirant. Mais tout de suite, on parle des espaces de nature en ville. Vous savez, les espaces verts, on en parle de plus en plus. Eh bien, sachez qu'ils sauvent des vies. Et oui, ça a été prouvé, 22 000 vies auraient été sauvées en France en 2023 grâce à ces espaces. C'est une étude signée Cabinet d'études économiques Asterès en collaboration avec l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage. Vincent Favéreau nous en dit plus.
On sait les bienfaits de la nature et des espaces verts au cœur de nos villes, trop souvent dominés par le minéral. Le cabinet Asterès vient de publier une étude démontrant les bienfaits de ces îlots de nature dans nos villes. Parmi les chiffres les plus marquants, l'étude révèle que les espaces verts ont empêché plus de 275 000 pathologies en 2023, notamment des cas de diabète chez les seniors et des prescriptions d'antidépresseurs chez les moins de 65 ans. Plus remarquable encore, ces zones ont contribué à éviter 22 000 décès, soit une moyenne de 60 décès par jour. Autre enseignement, les arbres dans les villes en France ont joué un rôle important dans la séquestration de plus de 20 millions de tonnes de CO2 et l'absorption d'environ 11 000 tonnes de polluants atmosphériques en 2023. Cette absorption a permis de prévenir de 1500 cas d'asthme infantile et réduit aussi significativement la pollution de l'air dans nos villes. On notera aussi dans cette étude disponible sur le net les bénéfices majeurs en création de valeur pour nos sociétés. Chaque euro dépensé pour les espaces verts a produit 70 centimes de valeur pour la société, en plus des effets significatifs sur la santé publique et l'environnement, soulignant ainsi l'impact positif de la végétation en milieu urbain. Une étude qui pousse les pouvoirs publics à revoir sérieusement les politiques d'aménagement pour les rendre plus vertes et plus arborées, pour peut-être permettre d'éviter le pire pour bon nombre d'êtres humains autant que pour la planète.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
Vous êtes bien dans le Mac de l'Imo, hein, votre matinale préférée. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien bienvenue à vous. Et puis si vous nous écoutez en podcast, bienvenue également. On va parler d'une nouvelle tendance immobilière hein, qui, je suis sûr, vous intéresse hein, pour celles et ceux qui ont les moyens et celles et ceux qui aiment bien rêver, les îles privées.
Et oui, bah, il faut reconnaître que ces lieux font rêver. Hein. Déjà, c'est des lieux très souvent classés dans la catégorie des biens de prestige, des lieux rares, des lieux atypiques, des lieux, vous l'avez dit Erwan, qui font rêver. De ce fait, ils sont de plus en plus demandés. Eh bien, en Bretagne, on en trouve beaucoup de ces îles. Voilà. Sachez que les archipels sont relativement nombreux et ce qui est assez pratique, c'est qu'ils sont proches du rivage. Ça, c'est, attention, c'est à prendre en considération, parce que quand on doit se taper une heure de bateau pour y aller, c'est un peu compliqué. Problème de riche. Mais attention, tout le monde ne peut pas y avoir accès, puisque, on va dire, le prix minimum, hein, c'est 2,5 millions d'euros. Ainsi, ces discrets bouts de terre cernés par la mer sont plutôt réservés, vous l'avez compris, à une clientèle privilégiée. Alors, on retrouve beaucoup de personnages publics, des chefs d'entreprise fortunés, comme par exemple la comédienne Danielle Darrieux, l'avocat Olivier Metzner, ou encore les hommes d'affaires Vincent Bolloré ou Pierre Cossu-Comorizet.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, Jean-Michel Royot.
Et ça y est, c'est le moment de découvrir une start-up. Vous le savez, tous les vendredis, on découvre une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. Et cette semaine, c'est Julien Bruno, décidément, cofondateur de IQSpot qui est en train de s'installer. Et je le laisse entre les mains de Jean-Michel Royot. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Julien Bruno. Comment ça va, Julien ?
Bonjour Jean-Michel, ça va très bien.
En forme ?
En forme.
Bon, alors Julien est le cofondateur et dirigeant d'une jeune start-up qui s'appelle IQSpot, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Bon, alors on va attaquer tout de suite la première question. Quelle est la promesse de votre start-up, Julien ?
La promesse d'IQSpot, c'est de décarboner l'immobilier existant. Et le tout avec le moins de capex d'investissement possible pour les investisseurs immobiliers.
Alors, on parle de quel immobilier là ?
On parle d'immobilier tertiaire, donc tout ce qui va être bureaux, plateformes logistiques, centres commerciaux, tout sauf le résidentiel.
Tout sauf le résidentiel. Allez, écoutez, c'est non seulement d'actualité, mais c'est extrêmement intéressant. Donc on va vous donner une minute, je me tourne vers Théo, notre tech, une minute top chrono pour en savoir plus. Donc on veut savoir depuis quand IQSpot existe, combien vous êtes, sur où est-ce que vous intervenez, est-ce que vous intervenez sur toute la France, sur l'international ? Comment ça marche, enfin on veut tout, ouvrez le capot, en une minute, c'est à vous.
Très bien, donc on existe depuis 2015, donc plus si jeune que ça, on a une trentaine de collaborateurs entre Bordeaux et Paris. Très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient installer des capteurs IoT dans les bâtiments pour aller récupérer les consommations énergétiques et d'eau de portefeuilles de bâtiments. On a une plateforme qui va collecter, agréger, analyser toute cette donnée et la restituer à toute la chaîne de gestion immobilière, l'asset manager, donc le financier dans ses bureaux souvent parisiens, ses administrateurs de biens, ses mainteneurs, pour que chacun ait une vision sur ce qui se passe et sur ce qu'il y a à faire pour avoir des actions concrètes sur le bâtiment pour le décarboner. Donc jusqu'à il y a encore un an et demi, j'aurais dit, on intervient partout en France. Mais cette dernière année, il y a une vraie demande de la part de nos clients français d'aller à l'international. Donc on a équipé des immeubles aux Pays-Bas, en Espagne, en Irlande, avec cette même technologie et cette même méthodologie pour aller décarboner n'importe quel immeuble tertiaire existant.
Super. Bravo. C'est particulièrement précis, la minute. Combien vous êtes ?
On est un peu plus de 30.
Un peu plus de 30. Et vous continuez à recruter ?
On a beaucoup recruté l'année dernière, donc encore quelques recrutements. On est plutôt en phase de stabilisation de l'équipe.
Ouais. Bon, bravo, c'est super intéressant. Alors, quels sont vos... Pouvez-vous nous parler un peu de vos clients ?
Donc, nos clients, on va trouver des sociétés de gestion de portefeuille immobilier. Dans nos beaux clients et belles références, il y a BNP Paribas Reim, la filiale gestion d'actifs de la BNP. La Française, qui est un de nos clients historiques, avec Foncière Inéa, aussi une foncière cotée bureau, avec qui on travaille depuis maintenant 2017 et 2018. Donc, des clients de longue date et d'autres clients comme Novaxia, depuis de nouveaux entrants qui ont aussi une nouvelle approche de l'immobilier. Ouais. Donc, un panel assez large de types d'investisseurs.
D'accord. Et en préparant l'émission, vous me disiez plus de 3 millions de mètres carrés, 3,7 millions.
Exactement. 3,7 millions de mètres carrés de cet immobilier tertiaire et sur lequel on agit à 90% en France et le reste en Europe.
Dans 5 ans, avec Qspot, c'est quoi ?
Ah, c'est une bonne question dans ce monde qui change beaucoup. Là, ce qu'on a dans les tuyaux, c'est continuer à grossir sur ce marché
à grandir
sur le marché de l'immobilier d'investissement. Donc là, en France, demain en Europe, et aussi de rajouter des briques. Et on était beaucoup sur l'analyse, monitoring de ces consommations. On est en train d'ajouter aussi des petites briques pilotage pour aller vers un meilleur contrôle de ce qui se passe dans le bâtiment et être en phase avec les nouvelles réglementations telles que le décret BAX qui est en train d'être poussé en France.
Et quand vous dites pilotage par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez vendre cette prestation de pilotage pour le compte de tiers ?
C'est que là actuellement on récupère des consommations des bâtiments et là on est en train de mettre en place des partenariats avec des intégrateurs GTB, des experts de ce monde du bâtiment pour rajouter la connexion qui va bien. Là on fait des préconisations, on dit il faut couper le chauffage la nuit, il faut couper le week-end. Demain c'est de donner l'outil au mainteneur
qui le fera automatiquement.
Pour qu'en un clic depuis notre plateforme il puisse le faire.
Ok, voilà. Super intéressant, bravo.
Merci.
Bravo, c'est remarquable. Et j'imagine que cette interview va susciter un certain nombre d'intérêts de la part des auditeurs de Radio Immo. Alors comment on contacte Julien ?
Si on veut me contacter personnellement, soit par mail à julien@iqspot.fr, soit sur LinkedIn, sur ma page de profil. Et voilà. Et sinon, si on veut plus d'infos, on a un site internet, un formulaire de contact comme toute entreprise.
iqspot.fr, c'est bien ça. Donc on va évidemment reprendre toutes ces informations sur un post qu'on va faire à l'issue de l'émission et on tâchera de le relayer pour faire connaître au maximum votre démarche, mais qui connaît une belle trajectoire donc depuis 2015, bravo.
Exactement.
Au nom de Radio Immo, on vous souhaite beaucoup de succès et pour les années à venir, au plaisir de vous accueillir pour connaître la suite de votre belle trajectoire. Bravo Julien, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Eh bien ça y est, cette première partie du Mac de l'Immo touche à sa fin. Dans quelques instants, notre invitée Sabrina Robles-Lebailly sera avec nous, la directrice générale de Adaptimo. Erwan, ce fut un plaisir. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, Erwan ? Il faut aller voter, tiens.
Exactement, je vais aller voter, du coup.
Les élections européennes.
Et vous, est-ce que vous allez pouvoir aller voter ?
Évidemment, c'est dans mon agenda.
En parlant des élections européennes, j'ai une petite surprise pour vous. Est-ce que vous reconnaissez cette voix ?
Salut tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On va pas parler du gameplay, on va pas parler, excusez-moi, du Call of Duty.
Un youtubeur ?
Indirectement, si. Alors, c'était un youtubeur.
Je connais pas.
Maintenant, c'est quelqu'un d'un petit peu plus connu.
En rapport avec les élections.
Oui. Ah oui.
Non,
vraiment bien en rapport avec les élections.
Non, je vois pas.
Je peux vous donner un petit indice. Son pseudo de youtubeur, Monsieur Jordan 9320.
Jordan Bardella ?
Exactement.
Jordan
Bardella était youtubeur Call of Duty, spécialisé
D'accord,
dans les jeux de guerre.
D'accord, comme quoi, on peut être youtubeur spécialisé dans les jeux internet et puis après accompagner Marine Le Pen. Hein, comme
exactement.
Quoi, dans la vie, tout est possible.
Une évolution de parcours, en tout cas, qui a le mérite d'être soulignée.
Oui, c'est vrai. Bon, ben voilà, peut-être c'est bien, c'est bon de le savoir avant d'aller voter. Non, je rigole évidemment. Bon, en tout cas, voilà, n'oubliez pas d'aller voter, c'est important pour les élections européennes, votre candidat préféré. Et nous, Erwan, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle donc que Sabrina Robles-Lebailly sera avec nous dans quelques instants. Juste avant de la découvrir, de la rencontrer en plateau, on va écouter le Flash Info et puis sa musique, son premier choix musical. Et c'est Mon Everest avec Soprano et Marina Kaye sur Radio Imo.
J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde, suis le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination, plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest. J'ai chanté l'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ces MAUX se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon carré VIP, c'est mon cercle familial, pour eux je brillais avant les projecteurs. I love you Comoria, I love you Massilia. Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.